Vous écoutez RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. 7h44 sur RTL, Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin la garde des Sceaux, ministre de la Justice, Nicole Belloubet.
Et merci à vous d'être sur RTL ce matin. Bonjour Nicole Belloubet.
Bonjour.
Mélina Bouguedir, djihadiste française, va être expulsée vers la France par Bagdad après une peine légère de 7 mois pour entrée illégale sur le territoire irakien. D'abord, quand sera-t-elle de retour sur le territoire
On ne
français
sait pas exactement. Nous suivons cela avec les attachés irakiens qui suivent son dossier, mais là, au moment où je vous parle, on ne le sait pas exactement.
Une question de semaine ou de mois ?
Sans doute deux semaines.
Deux semaines, elle pourrait être extradée en mars, par exemple ?
Peut-être, mais je ne suis pas capable de vous répondre.
Où sera-t-elle incarcérée lorsqu'elle arrive en France ?
Je ne sais pas où elle sera incarcérée. Ce que je peux vous dire, c'est que dès qu'elle arrivera en France, elle sera prise en charge par, évidemment, un juge, puisqu'elle fait déjà l'objet d'une incrimination pour association de malfaiteurs terroristes. Donc, elle sera prise en charge, elle sera judiciarisée, sans doute placée en garde à vue, avant qu'une décision la concernant ne soit prise.
Elle sera mise à l'isolement, dans un quartier.
Il faut pour cela qu'un juge se prononce avant qu'elle soit mise à l'isolement.
Donc elle sera en garde à vue, interrogée par les services antiterroristes.
Absolument, et puis ensuite, elle sera placée, si les juges en décident ainsi, elle sera placée en détention dans la situation qui conviendra.
Est-ce qu'elle reverra ses trois enfants qui avaient été rapatriés en décembre ?
C'est ça, les trois ans. D'abord, elle a un enfant avec elle.
Oui,
qui
alors
reviendra
celui-là.
Donc avec elle et qui fera l'objet également, qui sera présenté à un juge des enfants et qui fera l'objet d'un placement d'une mesure éducative, comme c'est le cas pour les trois enfants précédents qui ont déjà été accueillis en France, qui ont fait l'objet par le juge des enfants d'une mesure de placement et ils sont actuellement placés.
Placement chez un membre de sa famille ou une famille d'accueil ?
C'est ça.
En tout cas, ce qui se passe, c'est que l'enfant de 2 ans, il avait à peine 2 ans quand elle a été arrêtée. C'est pour ça d'ailleurs qu'il lui a été laissé, si je puis dire. Il va lui être retiré à son arrivée en France.
Ah bien forcément, si vous voulez, si elle est placée, enfin je ne sais pas ce que le juge décidera pour elle, mais l'enfant fera l'objet d'une mesure de placement.
Elle aura droit de revoir ses trois enfants qui ont été rapatriés en décembre.
Le juge décidera de cela.
Est-ce qu'un magistrat l'a interrogé sur place en Irak ?
Français ?
Oui,
il y a eu des missions de magistrats français qui sont allés en Irak.
Qui sont allés la voir, elle en particulier. Elle était partie en 2015 pour rejoindre son mari, partie faire le djihad. Elle était poursuivie dès 2016 par la justice française pour l'incrimination que vous avez dite. Arrêtée l'été dernier en Irak. Pourquoi n'a-t-elle pas été jugée en Irak, ou plutôt, pourquoi a-t-elle été jugée en Irak ? Pourquoi a-t-elle été jugée en Irak que pour entrée illégale sur le territoire ?
Bien, ce sont les Irakiens qui ont décidé cela. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, la France, dans ce type de situation, à partir du moment où elle va faire l'objet d'une expulsion, la France est tout à fait prête à l'accueillir et à répondre par une mesure judiciaire.
Et est-ce qu'on peut imaginer que les Irakiens aient volontairement laissé à la France la possibilité de la juger pour terrorisme ?
Moi, je n'ai pas à préjuger ce que les Irakiens ont souhaité faire. Je constate cette situation et les juges antiterroristes français...
Est-ce qu'il y a eu, Nicole Belloubet, des discussions entre les autorités de Paris et de Bagdad ? Vous comprenez la question ? Il y a plusieurs djihadistes étrangères, femmes d'ailleurs, qui ont le même profil que Mélina Bouguedir et qui ont été, elles, poursuivies pour des faits de complicité de terrorisme.
Il n'y a pas eu de discussion. Il y en aurait s'il y avait des questions de peine de mort, car nous n'avons
Vous l'aviez dit sur RTL.
Je l'avais dit, je le redis ici. En l'occurrence, il n'y a pas eu de discussion.
Mais est-ce que vous avez... les Français, d'une façon ou d'une autre, ont fait en sorte justement de ne pas avoir à négocier après une condamnation à mort ?
Notre position est très claire là-dessus. Nous disons que lorsque les Français sont mis en détention en Irak, les autorités locales font ce qu'elles ont à faire. Si ces Français sont ensuite rapatriés en France, nous les traitons de la manière judiciarisée que je vous ai expliquée.
Ce qu'on ne comprend pas, c'est que ça percute très précisément une déclaration, il y a seulement 10 jours, de Jean-Yves Le Drian, qui, vous le savez, était en Irak, et qui, parlant des femmes djihadistes, dont Mélina Bouguedir, dit « Ces femmes ont été des combattantes contre la France, elles sont venues en Irak combattre nos valeurs, elles devront être jugées sur les lieux de leurs crimes, c'est-à-dire exactement, en Irak.
C'est exactement ce qui s'est passé.
Pas pour leur crime.
Mais c'est exactement
pas
ce qui s'est passé. Madame, la personne dont vous parlez a été jugée en Irak pour ce que les autorités irakiennes ont retenu contre elle. Dont acte. Ils semblent devoir l'expulser. Si tel est le cas, nous nous préparons à les accueillir.
Donc finalement, la justice irakienne n'avait pas grand-chose à lui reprocher, sinon une
entrée. Écoutez, les autorités irakiennes ont choisi cette voie-là.
C'est une bonne nouvelle qu'elles reviennent se faire juger éventuellement pour terrorisme en France.
C'est ni une bonne nouvelle, ni une mauvaise nouvelle. Nous prenons acte.
Le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, porte-parole des Républicains, disait « Non, ce n'est pas une bonne nouvelle. » Alors, elle a dû rester en Irak.
Nous sommes en capacité de contrôler cette personne quand elle va arriver en France, de la juger, de protéger la société. Je crois que c'est cela qui est essentiel.
Est-ce que le dossier de Jamila, 28 ans, originaire de Lille, autre djihadiste française arrêtée en Irak, est également suivie par vos services, par un magistrat. Est-ce qu'elle pourrait donner lieu à une expulsion, elle aussi ?
Écoutez, je ne peux pas préjuger ce que décideront les autorités locales.
N'avez aucun suivi ? Est-ce que son dossier est traité par vos services ?
Nous savons...
Est-ce que vous la suivez à la trace, d'une certaine façon ?
Alors, d'abord, deux choses. Les services de renseignement sont parfaitement au courant des situations des Français qui sont sur les terrains de combat. Pour ce qui concerne le monde de la justice, les magistrats de la section antiterroriste suivent les dossiers, ont parfois émis des poursuites judiciaires contre ces personnes. Si elles reviennent, nous les traiterons. À ce stade, c'est tout ce que je peux vous dire.
Et vous savez, pour finir, combien de femmes sont dans cette même situation ?
Écoutez, on évalue à 600 personnes les Français qui sont sur les terrains de combat. Parmi elles, il y a un certain nombre de femmes. Je n'ai plus le chiffre exact en tête, mais nous savons exactement ce qu'il en est.
Nicole Belloubet, le monde judiciaire bouillonne avec vos travaux d'Hercule que vous avez lancés pour réformer la justice. Vous avez mis avocats et magistrats dans la rue jeudi dernier.
J'ai parfaitement conscience qu'il y a eu des manifestations. Dire que j'ai mis tous les avocats et tous les magistrats dans la rue,
c'est excessif. Des magistrats. Première raison de la colère, Nicole Belloubet, ils craignent les fermetures de sites, qu'il s'agisse de tribunaux d'instance ou de grande instance. On va essayer d'être clair. D'abord, en ce qui concerne les TGI, les tribunaux de grande instance, est-ce que les départements, par exemple, qui en ont plusieurs, parfois, vont en avoir moins ? Est-ce qu'il y en a qui vont fermer ?
Alors, moi, j'ai eu l'occasion de le dire, et je le redis ici. D'abord, si vous le permettez, je vais répondre à votre question, mais en une seconde. L'objectif de cette réforme, c'est quand même d'apporter un meilleur service aux justiciables. Ce ne sont pas que des mots. Pour moi, il est important que les justiciables puissent avoir une justice de proximité, et une justice plus efficace qui est rendue avec plus de célérité et qui mette, dans des situations où le droit est aujourd'hui complexe, qui mettent des magistrats qui peuvent travailler en équipe, qui sont en capacité de répondre de manière vraiment extrêmement positive et de manière rapide aux demandes des justiciables. C'est mon seul objet. J'ai pu lire que cette réforme était conduite pour des raisons budgétaires ou d'économie. Ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas le cas. D'ailleurs, permettez-moi juste de dire ici que le budget de la justice a augmenté en 2018 et qu'il augmentera encore les années suivantes. Et par exemple, cette année, nous aurons plus de 150 magistrats supplémentaires une fois que les départs à la retraite auront été compensés. Donc, il y a un effort budgétaire. Pour répondre à votre question précisément, j'ai également eu l'occasion de dire, parce que c'est lié à l'exigence de proximité, que aucune juridiction ne serait fermée. Aucune juridiction ne sera fermée.
Vous dites aucun lieu de justice
non,
ne sera
aucun
fermé.
Aucun tribunal. Je ne sais pas comment il faut le dire. Aucun tribunal ne sera
fermé. Aucun TGI, aucun non plus tribunal d'instance qui traite la justice du quotidien.
Vous savez, Madame Martichoux, il y a plus de 300 tribunaux d'instance en France. Ces tribunaux demeurent parce que ce sont les tribunaux de la justice du quotidien. C'est là où on va gérer les petits litiges, de moins de 10 000 euros. C'est d'ailleurs pas forcément des petits litiges pour les gens qui sont concernés, mais c'est là où
les
on va gérer...
Les dettes impayées, etc.
C'est là où ils demeurent.
Est-ce que les TGI, certains, vont être spécialisés ? Les inquiétudes non plus ne sont pas créées de toutes pièces. Il va y avoir des évolutions qui inquiètent.
Il va évidemment y avoir des évolutions. Et c'est ce que je souhaite pouvoir démontrer, c'est l'utilité de ces évolutions. Ces évolutions se feront sans aucune
donnez-nous
fermeture.
Donnez-nous un exemple.
Je vous donne un exemple. Dans un tribunal où il y a aujourd'hui très peu de magistrats du parquet, tout simplement parce que le nombre d'affaires ne le justifie pas, parce que les types de litiges ne le justifient pas. Nous souhaitons pouvoir densifier la chaîne pénale, par exemple au niveau d'un pôle qui pourrait être au niveau du département. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne traiterait plus de...
Ça veut dire quoi ? Densifier des pôles...
Eh bien, ça veut dire que nous souhaitons renforcer le parquet. Renforcer le parquet, donc, parce que le parquet...
Renforcer le parquet, ça veut dire...
Renforcer le parquet, ça veut dire mettre plus de magistrats du parquet
plus de contentieux
dans un des lieux, par exemple, tout en laissant sur chacun des lieux qui existent aujourd'hui la possibilité de juger des litiges pénaux de moindre importance.
Donc il n'y aura pas, par exemple, des tribunaux qui seront spécialisés, très très spécialisés, et qui perdront la possibilité de traiter certains contentieux.
Non,
alors qu'aujourd'hui, dans un tribunal, on peut à peu près...
Dans un tribunal aujourd'hui, vous traitez du contentieux civil, du contentieux pénal.
Ce sera toujours le cas.
Nous pourrons peut-être, dans certains cas, mettre un peu plus de contentieux pénal dans un endroit pour le densifier pour que la réponse soit meilleure, mais il y aura partout du contentieux civil et partout du contentieux pénal de proximité.
Est-ce que vous voulez qu'on porte plainte de plus en plus sur ordinateur, en ligne, c'est une façon de rendre la justice peut-être plus rapide. On pourra suivre ensuite, une fois qu'on aura déposé les plaintes, son dossier. Il faut que la numérisation suive, évidemment. Énorme pari.
C'est un énorme chantier.
Parce que en termes de numérisation, le ministère de la Justice, c'est parfois à des dysfonctionnements le passé.
Je ne suis pas sans le savoir, vous en doutez, mais ce n'est pas un pari, c'est un chantier que nous avons devant nous. L'idée, c'est de rendre la justice plus accessible aux citoyens. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Cela veut dire, évidemment, que nous devons dématérialiser la saisine de nos juridictions, mais pour autant, nous devons aussi accompagner les gens qui n'auraient pas, pour des raisons diverses, la possibilité d'accéder à cette numérisation. Absolument. Donc, nous mettrons en place dans chaque tribunal, nous développerons ce qu'on appelle le service d'accueil du justiciable, où il y aura des personnes physiques qui assureront l'accueil et qui aideront les gens à numériser éventuellement leurs procédures.
Voilà, projet en conseil des ministres.
Mais cela, c'est un plus, pour le justiciable, parce que ça lui permettra de suivre sa procédure en ligne.
C'est pour ça que c'est tout le défi technique aussi qui vous attend au ministère de la Justice, parce que tout repose sur cette numérisation, en tout cas beaucoup. Un mot de la réforme sur l'asile et l'immigration qui arrive en conseil des ministres aujourd'hui et qui inquiète des députés En Marche. Vous assumez la fermeté du texte ?
Je crois que c'est un texte qui, comme la politique qui est démontrée, c'est un texte qui souhaite être équilibré, c'est-à-dire qui à la fois comprend les dispositions qu'il comprend et sur lesquelles les parlementaires vont évidemment faire leur travail, mais c'est un texte qui doit se concevoir dans une politique d'ensemble, avec d'une part le travail qui est conduit actuellement avec les pays d'où sont originaires les migrants pour aider au développement de ces pays, avec également, vous le savez, tout le travail d'intégration.
Et les députés qui s'inquiètent pour les libertés individuelles sur les droits, et ça c'est vrai que ça vous concerne, les droits des migrants dans le traitement des réfugiés, un mot.
Eh bien, nous sommes très attentifs aux dispositions juridiques qui sont prises et nous avons eu l'occasion de travailler sur ces sujets avec Gérard Collomb. Je rappelle d'ailleurs que hier, le Conseil d'État a validé la circulaire qui avait été un temps contestée sur l'hébergement d'urgence.
En l'encadrant, tellement qu'on se demande d'ailleurs si elle va être applicable, mais c'est une autre question. Merci à vous, Nicole Belloubet, d'avoir été ce matin sur RTL.
Aucune juridiction ne sera fermée, le budget de la justice a été augmenté et le sera encore, ainsi que le nombre de magistrats qui va lui aussi augmenter, plus 150 cette année après les départs en retraite, vient de nous dire notamment la garde des Sceaux.